Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la seconde émission intitulée « La philosophie entre ombre et lumière » avec Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour. Alors bonjour aux philosophes reines et bonjour aux philosophes rois. Puisque ceux d'entre nous qui, bien sûr, ont cette nature de philosophe sont invités par Socrate à s'élever au-delà du monde de notre expérience sensible pour accéder, on va dire, aux vérités les plus hautes. Alors, ce motif de vérité, la vérité comme lumière, c'est bien entendu ce qui sera l'étude de ce motif, c'est ce qui sera aussi le fil conducteur de ce que je vais avancer maintenant.
Alors rappelez que c'est le livre 6 de la République de Platon que vous avez entrepris de nous clarifier.
Oui, le livre 6 de Platon qui commence à 507b pour les amateurs.
Important.
Important. Alors, que disais-je ? Eh bien, dans l'émission précédente, je montrais comment Socrate imagine pour que la cité Jus puisse être, non pas instituée, elle est instituée par Apollon. Hein. Apollon est le dieu qui institue les cités. Et c'est un dieu fondateur. Si j'en parle, c'est parce que son nom réapparaît ensuite. Donc, il s'agit d'instituer la cité au nom de l'idée du juste. C'est le thème peut-être de toute la République. C'est à voir. Eh bien, tout doit s'éclaircir du côté de ce qu'on appelle l'idée. Donc, Platon fait parler Socrate, mais Platon imagine qu'au-delà de notre expérience du monde sensible à travers nos sens, et cette expérience donne lieu à ce qu'il appelle l'opinion, c'est-à-dire une certaine connaissance minimale, au-delà de cela, et c'est à cette hauteur, à ce mouvement d'élévation que doivent être voués les philosophes rois ou les philosophes reines dans leur apprentissage, ce qui les permet d'être entre guillemets légitimes pour gouverner la cité. Si j'ai le temps, je parlerai aussi de cette étrange conception de la gouvernance, de l'hégémonie exercée sur la cité.
Oui, alors très, tout de suite, très élitiste,
extraordinairement élitiste et furieusement antidémocratique. Je n'ai peut-être pas le temps de l'évoquer, mais j'essaierai peut-être de le faire. Allons-y. Je reprends le fil de ce que je lisais. Socrate va établir une correspondance entre la vision qui nous permet d'appréhender les choses, bien qu'elles soient, encore une fois, prises dans leur diversité mouvante, correspondance entre notre expérience sensible et la connaissance qui se forme à partir d'elle, correspondance entre cela et la vision suprême, et là le mot de vision est métaphorique, et la vision suprême de ces idées, de ces entités, de ces êtres qui sont au-delà donc de toute expérience sensible et qui commandent en quelque sorte et qui décline toute la série des choses, dont celle, justement, que nous approchons. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. Ce qu'il faut toujours avoir en mémoire, c'est que l'analyse qui va être faite de l'acte visuel sera en correspondance avec ce qui sera présenté de l'acte qui permet de s'élever au-delà justement de ce qu'on appelle depuis le monde sensible, vers le monde qui est simplement accessible à un pur jeu de l'intelligence, le monde qu'on appelle le monde intelligible. Je commence. Nous disons que les choses multiples sont vues, mais qu'elles ne sont pas pensées. Alors que les formes sont pensées, mais ne sont pas vues. Alors, je vais dire un mot. Nous disons que les choses multiples sont vues. Les choses multiples, c'est-à-dire, par exemple, les oliviers, les cigales, puisque elles jouent un rôle dans un autre dialogue de Platon. Par exemple, les temples, par exemple, les temples, les lieux où les jeunes gens s'exercent à la gymnastique, qui sont aussi des lieux privilégiés de la philosophie, ce sont ça. Il s'agit de cela, les choses multiples. Hein? Nous disons ensuite que les choses multiples sont vues et qu'elles ne sont pas pensées. Au sens d'une pensée pure, hein. Alors que les formes, c'est-à-dire ces principes idéaux qui commandent les choses sensibles, et nous verrons qu'elles sont de nature purement intelligible, cela veut dire que seul l'intellect, hein, en grec nous, peut les appréhender. La tâche du philosophe sera de s'élever justement vers ce qu'on appelle les idées. Alors je continue. Nous disons ensuite que les choses multiples sont vues, mais qu'elles ne sont pas pensées, alors que les formes, donc les idées, les formes pures des choses qui existent dans un au-delà non sensible, sont pensées, mais ne sont pas vues. Absolument. Glaucon n'est pas contrariant. Hein?
Donc en fait, il faut une éducation pour les voir.
Ah bien sûr. Et c'est même l'éducation, la païdéia, qui est destinée aux philosophes, qu'il faut en quelque sorte arracher à l'influence très négative de ces professeurs qui les séduisent, que sont les sophistes. Alors, je continue. Hein. Et maintenant, par quelle partie de nous-mêmes voyons-nous les choses visibles ? Par la vue, dit-il. Et de même, repris-je, nous entendons par l'ouïe les choses audibles. Et par les autres sens, nous percevons la totalité des choses sensibles, sans doute. N'as-tu pas remarqué, repris-je, à quel point l'artisan de nos sens s'est dépensé pour rendre possible la faculté de voir et d'être vu ? L'artisan de nos sens, une hypothèse de Platon sur laquelle il y a eu un démiurge qui a créé l'homme. C'est un autre texte. Donc, ce que veut marquer ici Socrate, c'est la prééminence de la vue sur les autres sens. Alors, à la question « As-tu remarqué ?», Glaucon répond « Non, pas vraiment.
» Il est honnête.
Oui. Eh bien, considère la question de la manière suivante. N'y a-t-il pas quelque chose d'un genre différent qui soit requis à l'ouïe et à la voix, l'une pour entendre, l'autre pour être entendue, de telle sorte que si cette troisième chose fait défaut, l'ouïe n'entend pas et la voix n'est pas entendue. Je ne vois rien du tout, hein, je ne vois rien de ce genre. Bon. Et ce que va montrer Socrate, c'est que l'acte visuel, à la différence des autres actes, puisqu'il s'agit d'actes, hein, de la sensorialité, l'acte visuel suppose, entre l'œil et la chose vue, un élément médiateur. Et cet élément médiateur, c'est la lumière. Autrement dit, nous savons déjà la vérité. Hein? Donc, il y aurait différence. Comment cela ? Admettons que la vue soit présente dans les yeux et que celui qui s'en trouve doué entreprenne de s'en servir. Je vais recommencer. Admettons que la vue soit présente dans les yeux et que celui qui s'en trouve doué entreprenne de s'en servir. Alors, toujours l'idée quand même qu'il y a de la dynamique, qu'il y a de l'action. Hein. La vue est une faculté, c'est-à-dire une dynamique. Hein, le mot, c'est dynamis. Admettons aussi la présence d'une coloration dans les choses. Donc, nous avons d'un côté l'activité visuelle et de l'autre, la coloration des choses. Hein. Il faut que les choses apparaissent alors dans une couleur. Il y a une référence subreptice à la peinture. À l'art de mêler les couleurs du peintre qui renverrait peut-être à ce dont je parlais tout à l'heure, un démiurge. Hein? Bien, nous avons donc les yeux qui s'exercent à la vision et les choses qui présentent une spécificité qui relève de la couleur. Bon, je reprends. Excusez-moi. Admettons que la vue soit présente dans les yeux et que celui qui s'en trouve doué entreprenne de s'en servir. Admettons aussi la présence d'une coloration dans les choses. À moins que n'intervienne un troisième genre d'élément, propre par nature à cette fin, tu sais que la vue ne verrait rien et que les couleurs demeureraient invisibles. Mais de quel genre d'élément parles-tu donc? Bon, pas très doué le futur philosophe.
Hein.
De ce que j'appelle la lumière, repris-je. Alors voilà le motif de la lumière. Hein. Entre l'activité visuelle de l'œil et l'objet destiné à être vu, il doit y avoir la lumière. Sans quoi, la vision n'est pas possible.
Ça fait penser vraiment à la photographie, je trouve.
Oui, hein? Oui, sûr.
Parce que la photographie sans la lumière, c'est...
Bien sûr, bien sûr. Oui. Tu dis vrai. Alors donc, ce n'est pas selon un type de rapport de peu d'importance que le sens de la vue et la faculté de voir se trouvent liés par un lien plus précieux que tous les liens, qui unissent les autres, sens et leur objet, à moins que tu ne tiennes la lumière pour quelque chose de peu de valeur. Mais il s'en faut beaucoup, dit-il, que ce soit une chose sans valeur. Nous sommes en Grèce. Hein, nous sommes en Grèce, qui est quand même le pays par excellence de la lumière. Et vous allez voir surgir quelque chose comme le dieu de la lumière. Alors, j'avais parlé d'Apollon comme celui qui instituait la cité. Voici maintenant une autre version d'Apollon. Apollon Phébus, c'est la lumière. C'est le soleil, pardon. Quel est selon toi celui des dieux du ciel qui détient le pouvoir de causer ce lien? Lui dont la lumière donne à la vue de voir magnifiquement et aux choses visibles d'être vues. Le dieu du ciel, ambiguïté.
Mmh.
Hein? Celui-là même que tu désignerais, dis-je, comme tout le monde, car c'est le soleil, manifestement, que tu me demandes de nommer. Donc, nous avons maintenant non seulement la vision, hein, qui suppose l'élément médiateur de la lumière, mais maintenant nous avons en appel la source de la lumière, le soleil. Mais nous sommes toujours dans un monde de l'expérience sensible, bien que la lumière soit déjà interpellée à partir du nom du Dieu. Hein, y a tout de suite la relation au divin qui rendra possible la correspondance.
Donc la lumière du soleil, et nous avons choisi les nocturnes de Chopin, comme dans la première émission. Là, le nocturne numéro 13... Nocturne, on n'est jamais dans la nuit noire. Alors, sur Radio Alliance Plus, nous continuons avec Françoise Gernot.
Cette lecture.
Oui.
Cette lecture édifiante.
Nous continuons avec Françoise Gernot cette lecture édifiante de La République de Platon. Nous en étions à l'apparition du dieu soleil.
Oui. Revenons sur Terre. Tu sais, reprit-il, que les yeux, lorsqu'on les tourne vers ces objets colorés, que n'éclaire plus la lumière du jour, mais seulement quelques lueurs nocturnes, perdent de leur acuité et semblent devenir presque aveugles, comme si la clarté de la vision les avait quittés. Alors, bon, n'allant de rien, je vais essayer de commenter. Bon, Les yeux, lorsqu'on les tourne vers les objets colorés, n'éclairent plus la lumière du jour, mais seulement quelques lueurs nocturnes perdent leur acuité et semblent presque aveugles. Alors, deux remarques. Ces objets colorés que n'éclairent plus la lumière du jour, mais seulement quelques lueurs nocturnes. Alors, les mots sont tout à fait ambiguës. On peut traduire plus joliment, et c'est la traduction adoptée par Chambry aux éditions Budet, les objets colorés que n'éclairent plus les flambeaux de la nuit.
Il ne fait jamais totalement nuit.
Alors, vous voyez bien que, en effet, l'expérience visuelle, elle décline lorsque, évidemment, le jour décline. Mais si les yeux deviennent presque aveugles, ils ne sont pas aveugles. Je dirais le contraire de la lumière n'est pas la nuit. C'est l'obscurité, une certaine obscurité. Parce que jamais les hommes, reprenons la correspondance, jamais les hommes sont dans un état de totale ignorance. Il y a toujours de l'être, il y a toujours quelque chose qui existe, même à moindre, à moindre teneur d'existence. Autrement dit, il n'y a jamais la nuit absolue. Il y a alors des lueurs, ou plus joliment, des flambeaux dans la nuit. Alors, ces flambeaux dans la nuit, je préfère cette traduction non seulement parce qu'elle est poétique. Et elle fait davantage appel à notre imaginaire, mais aussi parce qu'elle est possible, parce que le mot grec, qui est fenge, peut dire les choses. Mais souvent, fenge, ça désigne aussi la lumière vive. Or ici, nous sommes bien, ça désigne aussi les flambeaux.
Oui, on est toujours dans cette acuité du mot.
Et au début du livre, il y a bien une retraite au flambeau. Donc je préfère la notion flambeau, et puis encore une fois, elle est plus beaucoup plus poétique. Donc, voilà. La vision, lorsque la lumière décline, la vision, eh bien, perd son acuité. Les yeux sont presque aveugles. Comme si la clarté de la vision les avait quittés. Comme si. Vraiment, ces nuances, j'y insiste beaucoup. Oui, bien sûr, dit-il.
Je reprends la notion d'aveuglement. L'aveuglement,
Il n'y a pas d'aveuglement pur. Bon, alors la question de l'aveuglement, bien sûr, elle existe. Pensez à la fin d'Édipe Roy. Bon, elle existe dans la tradition grecque. Socrate reprend. Je pense bien que si les yeux se tournent vers les objets que le soleil illumine, ils les voient nettement et il semble bien que la vision soit claire pour ces mêmes yeux. Donc, l'œil oscille entre l'obscurité, mais légèrement éclairée, et le grand jour où, justement, tout apparaît avec netteté. Sans doute, Socrate conçoit donc maintenant s'il en est de même pour la vision de l'âme. Alors, nous voyons ici surgir le tableau en correspondance entre la vision concrète et puis la vision intellectuelle, entre guillemets, et la lumière concrète et la lumière de la vérité. La lumière comme vérité ou la vérité comme lumière, avec toute cette charge métaphorique, encore une fois, de l'élucidation, la montée vers une acuité du regard, mais maintenant d'un regard qui sera, entre guillemets, conceptuel. Je reprends le texte. « Conçois donc maintenant qu'il en est de même pour la vision de l'âme. Lorsqu'elle se tourne vers ce que la vérité est l'être, absolu, illumine, alors elle le pense. » Alors, que pense-t-elle ? Elle pense l'être absolu. Elle le connaît, elle semble posséder l'intellect. Le mot qui est traduit par intellect, c'est nous. C'est-à-dire, il y a deux termes pour désigner l'activité intellectuelle. Il y a la dianoïa, qui énonce par progression, je dirais, méthodique, rationnel, un certain accès à la vérité. C'est le cas, par exemple, lorsque nous faisons des mathématiques. Et puis, au-delà, il y a nous. Alors, nous, c'est l'intellect qui saisit l'être en tant que tel, qui saisit l'existence de la plus haute qui puisse se saisir. Bon, c'est pas très simple. Hein.
Non, pas du tout.
Mais cette différence entre dianoïa et nous, entre une raison, qui se monnaie selon une méthode, on pense à Descartes, et la vision, qui est une vision de type mystique, cette distinction, elle est possible. Je pense aussi qu'elle existe chez Descartes. Alors, chez Descartes, il y a cette vision-là, entre parenthèses. Alors, l'âme...
Tous les philosophes ont fait du grec. Hein.
L'âme, lorsqu'elle se tourne cependant vers ce qui est mêlé d'obscurité, sur ce qui devient et se corrompt, ça, c'est les choses. Mmh. Hein? Les choses, elles sont obscures, obscures à penser. Hein? Et ce qui caractérise ces choses, c'est qu'elles sont en devenir et qu'elles se corrompent. Hein? Le monde sensible est un monde où il y a de la corruption, il y a du déclin, il y a de la pourriture. Quoi. Mmh. Ma pomme, elle pourrit.
Eh oui.
Hein, la pomme, elle pourrit. Donc, lorsque l'âme se tourne cependant vers ce qui est mêlé d'obscurité, sur ce qui devient et se corrompt, alors elle a des opinions dans lesquelles elle s'embrouille en les revirant en tous sens, et on dirait qu'elle est alors dépourvue d'intellect. Si la pensée au plus bas niveau, s'accroche à ce monde, des choses, j'emploie une expression qui n'est pas du tout celle de Platon, en quelque sorte pourrissante, cette pensée...
Elle ne peut pas s'élever.
Oui, elle ne peut pas s'élever. Elle se corrompt. Elle-même, elle est en devenir. Elle-même, elle est étourdie, en quelque sorte. Elle est en quelque sorte étourdie, c'est moi qui parle, par ses visions et ses sensations. Alors, ces visions et sensations, maintenant, au niveau premier. Hein. Je continue. Eh bien, ce qui confère la vérité, comme acuité, comme lumière, eh bien, ce qui confère la vérité aux objets connaissables et accorde à celui qui connaît le pouvoir de connaître, tu peux déclarer que c'est la forme du bien. La forme du bien, c'est-à-dire que, encore une fois, dans un au-delà, que seul l'intellect peut... approcher, eh bien, il y a une forme pure, il y a un modèle pur, il y a ce qu'on a traduit idéa par idée, du bien. Alors le bien, agathon, c'est une formule, eh bien, quand même, les philosophes, sur laquelle les philosophes butent toujours.
Oui, c'est quoi le bien?
Oui, alors le bien, c'est, on a essayé de trouver toute une série d'évocations. Le bien, ça évoque une perfection pure, mais pas seulement. Alors, je continue. Hein. On revient à la vérité. Alors, je reprends tout. Ce qui confère la vérité, l'éclaircissement, aux choses connaissables et accorde à celui qui connaît le pouvoir de connaître, tu peux déclarer que c'est la forme du bien. Okay? Comme elle est la cause de la connaissance de la vérité. Tu peux la concevoir comme objet de connaissance. Alors, la connaissance, un peu plus loin, la connaissance est la vérité. Il est juste de penser qu'elles sont comme la lumière et la vue semblable au soleil dans le monde visible, mais il n'est pas correct de les identifier au soleil. De même que le monde intelligible, il est juste de penser que la connaissance et la vérité sont semblables au bien, alors qu'il serait incorrect d'identifier l'une ou l'autre au bien. La nature du bien, en effet, doit être quelque chose de plus précieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord ceci, je lis littéralement, la connaissance est la vérité, il est juste de penser qu'elles sont comme la lumière. Hein, toujours cette métaphore extrêmement forte et profondément grecque dont nous avons hérité. Hein? Je ne suis pas sûre, par exemple, que dans le monde biblique est un monde de la voix. Hein? La voix divine qu'entend Moïse. C'est un monde de l'écoute. Je m'en Israël.
Israël. C'est pas un monde alors de la
là,
vision.
Ouais. Alors là, nous sommes vraiment dans le registre de la vision. Et on a, je pense, deux pensées. Vous savez, nous sommes pris entre la Grèce et entre Athènes et Jérusalem, comme on a dit. Mais là on voit bien qu'il y a quelque chose de très différent. Je continue. Nous venons de voir comment justement est reprise ce système analogique entre la vision des choses sensibles et le dispositif visuel qui suppose le soleil et la lumière. Et maintenant, nous voyons apparaître en comparaison. Mais il s'agissait d'un exercice pédagogique. Hein. Nous voyons apparaître maintenant ce qui correspond dans notre expérience intellectuelle, c'est-à-dire non pas la lumière mais la vérité, non pas le soleil mais l'idée du bien. Mmh. Et tout concerne cet exercice qui là, nous allons le voir, nous porte presque au-delà de nous-mêmes. Le soleil, image du bien, le bien, je lis. Eh bien, maintenant, pour les objets de connaissance, ce n'est pas seulement leur possibilité de connaître que manifestement ils reçoivent du bien, mais c'est aussi leur être et leur essence. Alors nous voyons que le bien engendre, comme le soleil engendre des choses sensibles, le bien qui engendre aussi le soleil, le bien engendre tout ces essences, toutes ces substances qui qualifient les choses et les idées elles-mêmes. Alors, je relis. Ce n'est pas seulement leur possibilité d'être connaître que manifeste que ces choses reçoivent du bien, mais c'est leur être et aussi leur essence. Mm. Si vous voulez, l'essence, je dirais la teneur d'être, hein, qu'ils tiennent de lui, même si le bien n'est pas l'essence. Le bien n'est pas non plus cette entité suprême, mais quelque chose qui est au-delà de l'essence. Hein, imaginez les spéculations à l'infini des philosophes. Epekaina tesousias. Dans une surabondance de majesté et de puissance. Et que dit Glaucon ? Alors Glaucon, qui, facétieux, s'exclama « Par Apollon, dit-il, quelle prodigieuse transcendance !» Alors c'est du style « Waouh !»
C'est très ironique.
Waouh ! Bon, non. Il n'a pas compris grand-chose, il a simplement saisi qu'on était vraiment... qu'il y avait quelque chose de très...
Oh extraordinaire.
Oui, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler une expérience mystique. Hein. Du reste, la pensée chrétienne s'en emparera. Alors, Glaucon, facétieux, s'exclama. Alors, geloiosos, ça veut dire qu'il plaisante. Hein. Mmh. À la limite, gelan, c'est rire. Hein.
Ouais.
J'irais presque qu'il éclate de rire, ou en tout cas, il... Par Apollon. Alors, par Apollon, bien sûr, il joue sur le dieu du ciel qui figure aussi l'idée du bien. Par Apollon, dit-il, quelle prodigieuse transcendance. Hyperbolé. Le mot, c'est hyperbole. Hein. Quelle hyperbole démonique. Alors, je ne peux conclure que
oui.
Sur cette absolue transcendance qui marque...
Écoutez, merci, parce que je comprends...
La fin de la pensée philosophique.
Quand vous avez dit au début qu'il fallait oser la philosophie.
Il faut oser la philosophie.
Merci beaucoup, François.
Merci pour votre écoute.